إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بالجميع، بيانفني à tout le monde، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يجعل ذلك المجلس مباركا ونافعا للجميع بإذن الله. Je tiens aussi à remercier les responsables de m'avoir accordé et donné autorisation pour donner cours. جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. Nous allons commencer l'explication بإذن الله des trois fondements. Donc ce livre est un livre qui est profitable et c'est un livre de base que tout musulman doit connaître. Et comme on sait, ce livre contient et concerne les questions dont le musulman sera posé, qu'on posera au musulman en sa tombe. Nous allons donc lire l'introduction de Cheikh Souleyman Rouhaili Hafidhahullahu Ta'ala. Premièrement, comment s'appelle ce livre? Car certains savants ont dit que ce livre s'appelle Al-Usul al-Thalatha, et d'autres ont dit qu'il s'appelle Thalathatul Usul wa Adillatuha. Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhahullah mentionne que le plus correct c'est de dire qu'il s'appelle Thalathatul Usul wa Adillatuha. Car Al-Usul al-Thalatha, c'est un autre épître que le Cheikh a rédigé, mais c'était pour l'enseignement des jeunes, des petits et des jeunes. Donc ce qui est correct, le plus correct, c'est Thalathatul Usul wa Adillatuha. قال الشيخ سليمان رحيلي حفظه الله وهو يعني هذا الكتاب حوى ما يجب على كل مسلم تعلمه من توحيد رب العالمين وبالعلم به العلم الشرعي المقترن بالعمل هذا التوحيد من عمل به تحققت له سعادة الدنيا والآخرة والنجاة عند فتنة القبر. Donc le Cheikh Souleyman nous dit, ce livre contient ce qu'il est obligatoire à tout musulman de connaître concernant le tawhid du Seigneur de l'univers. Et ce qui est voulu par cette connaissance, c'est la connaissance religieuse attachée à sa mise en pratique. Quiconque met en application ce tawhid, le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà se réaliseront le concernant, ainsi que le salut lors de l'épreuve de la tombe. إذ مداره على الأسئلة الثلاثة التي يسألها المرء في قبره من ربك ما دينك ومن نبيك هذه الأسئلة في مدار أو هي مدار كتابنا هذا ولن يوفق إلى الحق فيها إلا من علم بها وقالها بلسانه واعتقدها بجنانه و عمل بها بجوارحه وأركانه حيث ثبت أن العبد يفتن في قبره في تلكم الحفرة الضيقة. Donc, et nul ne pourra y répondre correctement, sauf celui qui en a connaissance. les a prononcées avec sa langue, croit fermement à celles-ci avec son cœur et les a appliquées avec ses membres. Et il a certes été rapporté de manière authentique que l'homme sera éprouvé dans sa tombe et il sera interrogé sur ces trois questions. عن هاني مولى عثمان قال كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه نعوذ بالله من فتنة القبر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. نسأل الله السلامة العافية. Ensuite, il a été rapporté selon Hani, le serviteur de Uthman, que lorsque Uthman, radiallahu anhu, se tenait debout devant une tombe, il pleurait tellement jusqu'à mouiller sa barbe. On lui dit, tu évoques le paradis et l'enfer, et sans verser aucune larme, et tu pleures devant la tombe. Il répondit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est la première des étapes de l'au-delà. S'il en est sauvé, ce qui suivra sera plus facile. Et s'il n'en est pas sauvé, ce qui viendra sera plus rude et plus dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai jamais vu un décor plus affreux que celui de la tombe. Qu'Allah nous en préserve. Waja fi hadithin طويل فقد جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال يأتي ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان ما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم فيأتيه من روحها وطيبها قال يفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته قال تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها 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 لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال: فيضربه بها ضربة ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا، ثم قال: ثم تعاد فيه الروح. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا حديث عظيم. Il a été rapporté dans un long hadith selon Al-Bara ibn Azib. Nous sortîmes en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de suivre le convoi funèbre d'un homme d'Ansar. Nous arrivâmes à sa tombe avant qu'il ne soit enterré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous nous sommes assis autour de lui. On aurait dit que des oiseaux étaient posés sur nos têtes. Tandis qu'il tenait un petit bâton avec lequel il donnait des petits coups dans le sol, il leva la tête et dit deux ou trois fois « Demandez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. » Ensuite il dit « Certes, donc celui dans sa tombe, il entend le bruit de leurs sandales lorsque les gens s'éloignent. Puis on lui demande « Ô toi, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion et qui est ton prophète ?» Il dit « Deux anges viennent à lui. » Et il l'assoit avant de lui demander « Qui est ton Seigneur ?» Il répond « Mon Seigneur est Allah. » Il lui demande « Quelle est ta religion ?» Il répond « Ma religion est l'islam. » Il lui demande « Quel est cet homme qui vous a été envoyé ?» Il répond « C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Il demande « Comment le sais-tu ?» Il répond « J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et je l'ai suivi. » La parole d'Allah... Et ceci est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, et il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Alors, depuis le ciel, une voix dira, mon serviteur a dit vrai, étalez donc pour lui des couches du paradis, ouvrez-lui une porte qui donne sur le paradis, et faites-lui porter des vêtements du paradis. Alors une partie de son vent et de son parfum lui parviendra. Il dit ensuite, et ensuite, on lui élargira sa tombe jusque là où sa vue s'arrête. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux. Il a dit, quant aux mécréants, il mentionna alors sa mort et dit, son âme reviendra dans son corps et deux anges viendront à lui et lui demanderont, qui est ton Seigneur? Il répondra, je ne sais pas. Ils demanderont « Quelle est ta religion ?» Il répondra « Ah, je ne sais pas. » Ils demanderont « Quel est cet homme qui vous a été envoyé ?» Il répondra « Ah, je ne sais pas. » Alors depuis le ciel, une voix dira « Mon serviteur a dit faux. Étalez donc pour lui des couches de l'enfer et faites-lui porter des vêtements de l'enfer et ouvrez-lui une porte qui donne sur l'enfer. » Il dit « Alors une partie de sa chaleur et de son vent lui parviendra. » Il dit « On resserrera alors sa tombe sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Ça va te la faire. Puis on lui déléguera un homme aveugle et muet qui tient une barre de fer. Si on l'utilisait pour taper sur une montagne, elle deviendrait poussière. Il dit, on lui donnera un coup et tous ceux qui sont entre l'est et l'ouest l'entendront, à l'exception des djinns et des êtres humains. Il deviendra alors poussière. Il dit ensuite, puis on lui rendra son âme. لذا كان متعينا على كل مسلم أن يعلم هذه الأصول علما لا يتطرق إليه شك ويعتقدها ويعمل بها. C'est pour cela qu'il est obligatoire à tout musulman de connaître ces trois fondements avec certitude, qui ne laisse aucune place au doute. Et qu'il y croit fermement et les met en application. وَقَدْ جَمَعَ كِتَابَ الْأُصُولَ الثَّلَاثَةَ كُلَّ هَذَا فَفِيهِ الْعِلْمُ وَتَحْقِيقُ الْإِعْتِقَادِ وَتَرِيقُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْإِعْتِقَادِ. Et ce livre regroupe certes ces trois choses, la science, l'affirmation de la croyance et la mise en pratique de cette croyance. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ وَأَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَفْهَمَ مَعَنِيهِ وَأَنْ يَعْمَلَ بِمَا جَاءَ فِيهِ. Il incombe donc aux musulmans d'étudier ce livre, de le comprendre et de l'appliquer. وَكَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدْ بْنَ عَبْدَ الْوَهَابِ رَحِمَهُ اللَّهِ يُلَقِّنُ الطَّلَبَةَ وَالْعَامَّةَ هَذِهِ الْأُصُولِ وَيُحَفِّظُهُمْ إِيَّاهَا وقد كتبها رحمه الله بألفاظ سهلة وميسرة ليتعلمها عامة الناس من الكبار والصغار بمختلف طبقاتهم ليسهل حفظها. وقد استدل رحمه الله لكل ما أورده بأدلة من الكتاب والسنة. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab enseignait, rahimahullahu ta'ala, enseignait ses fondements à ses étudiants et les faisait mémoriser. Il a certes écrit ce livre en utilisant des termes simples et simplifiés, simples et faciles, afin que le commun des musulmans parmi les personnes âgées et les plus jeunes puissent l'étudier et que sa mémorisation leur soit facilitée. Et le Cheikh a certes argumenté tout ce qu'il y a rapporté par des preuves du Coran et de la Sunna. وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب اهتماما عظيما لنفاسة ما فيه إذ إن هذا الكتاب قد انفرد بجمع ذلك إذ لم يسبق إلى مثله. Donc c'est pour cela. Donc et les savants ont certes accordé une immense importance à ce livre pour son précieux contenu, car ce livre est le seul qui a regroupé ce sujet-là et personne ne l'a fait précédemment. ولذا يحضرني من اهتمام العلماء به أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي قد شرح الكتاب وعلق عليه ووضع عليه حاشية كما شرحه وعلق عليه الإمام والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما شرحه أيضا العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ محمد الطيب الأنصاري المدني رحمه الله جميعا وعلق عليه الشيخ محمد منير الدمشقي. كل هذه تعليقات على الكتاب وهي كلها مطبوعة متداولة بين أيدي طلاب العلم. C'est pour cela qu'il me, le Cheikh dit, c'est pour cela qu'il me vient à l'esprit l'importance que les ulama accordaient à cette épître, à l'explication de ce livre. D'ailleurs, tel que le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najni, qui a expliqué et commenté ce livre, ainsi que le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, l'ancien mufti d'Arabie, rahimahullahu ta'ala, ainsi que le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, والشيخ محمد الطيب الأنصاري والشيخ محمد منير الدمشقي كلا leur fasse miséricorde. Donc ce sont les commentaires de ce livre et ils sont tous imprimés et répandus auprès chez les étudiants en sciences. وللكتاب نظم جميل سلس نظمه الشيخ عمر المدني وهذا النظم مطبوع وموجود مع كتاب الشيخ الأنصاري وحبذا لو أن الطلاب العلم من الذكور والإناث اقتنوا هذا النظم فحفظوا الكتاب نثرا ونظما حفظوه ثم عملوا بما فيه فإن في ذلك خيرا عظيما. Et le Cheikh nous dit qu'il y a une poésie qui a été faite pour ce livre, qui a été faite par le Cheikh Omar al-Madani. Et ce poème est imprimé avec l'explication du livre du Cheikh Al-Ansari. Et il serait judicieux et bon que les tullab al-ilm, parmi les hommes et les femmes, donc s'approprient ce livre et l'acquièrent afin de le mémoriser. Que ce soit la poésie et le nathr, le texte. Et ni qu'ils le mémorisent et l'appliquent. Et il y a dans cela un énorme bien. C'est pour ça que ce serait bien de faire avec les talabat al-ilm qui sont présents ici et ceux qui veulent le mémoriser, d'essayer de trouver par exemple un jour dans la semaine ou même après le cours pour voir ceux qui veulent répéter ou bien qui veulent mémoriser le livre. C'est un livre, sincèrement, il n'est pas gros, il est tout petit. Et il y a vraiment énormément de bénéfices à le mémoriser et ensuite le transmettre à la famille. Et autres. Qu'Allah nous facilite cela. ولا شك أن التوحيد أهم ما ينبغي أن يعتني المسلم بتحقيقه وأول ما ينبغي أن يدعو إليه فهو أصل رسالة الرسل وهو الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع من غير اختلاف بينها، ودعا إليه أنبياء الله جميعا. Donc le cheikh dit ensuite, et ce livre, donc il dit ensuite, et il n'y a aucun doute que le tawhid est la chose la plus importante pour laquelle le musulman doit se soucier de concrétiser, et la première chose à laquelle il doit appeler. C'est la base du message des messagers et l'affaire sur laquelle toutes les législations sont unanimes sans divergence entre celles-ci. Et tous les prophètes d'Allah, alayhim salatu wassalam, ont appelé à celui-ci. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت فمهمة الأنبياء الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك فالتوحيد هو القضية الكبرى والقاعدة الأساس لإقامة الدين وهو روح الإسلام ولذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد واستمر إليه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهكذا ورثته من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Et Allah dit dans le Coran, le sens rapproché, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tagout. La fonction des prophètes était donc d'ordonner le tawhid et d'avertir contre le shirk. Le tawhid est donc la plus grande des affaires, le principe fondamental pour que la religion soit établie et il est sa quintessence et sa base. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque à appeler au tawhid et il persévéra dans cela jusqu'à ce qu'il mourût sallallahu alayhi wa sallam. De même que ses héritiers et ceux qui les ont suivis en toute vertu jusqu'au jour de la résurrection. وتوحيد الله وإفراده بالعبادة هو العبودية التي خلق الله الجن والإنس لأجله أو لها. Et le tawhid d'Allah et le fait de l'unifier dans l'adoration, c'est la raison pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes. Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَهَذَا حَصْرٌ لِلْحِكْمَةِ فِي خَلْقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَعِبَادَةُ اللَّهِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِتَوْحِيدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ceci est une spécification, donc dans le verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », c'est une spécification de la sagesse pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes. Et ce qui est voulu par cela, c'est l'adoration d'Allah et le fait de l'unifier. Et l'adoration d'Allah ne se concrétise que par son unicité. C'est pour cela que les savants ont expliqué la parole d'Allah dans le verset mentionné précédemment, que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est en réalité, les savants l'ont expliqué, c'est-à-dire pour m'unifier. وَلِذَا فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا لِيَعْبُدُونَ بِقَوْلِهِمْ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ ولذا ينبغي على المسلم أن يقيم حياته كلها على التوحيد وأن يقيم صلاته ونسكه ومحياه ومماته على توحيد رب العالمين. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc, c'est pour cela qu'il incombe aux musulmans d'établir toute sa vie et de construire toute sa vie sur le tawhid. Qu'il établisse sa prière, son sacrifice, sa vie et sa mort sur le tawhid du Seigneur de l'univers. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit, en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. التوحيد هو عماد الدين وجوهر العقيدة وأول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، قامت عليه الأدلة، ونادت عليه الشواهد، وأوضحته الآيات، وأسست عليه الملة، وانقسم الناس بسببه لشقي وسعيد، وهو القاعدة التي يجب أن تستقر في النفوس وترسخ في القلوب قبل الدخول في الأوامر والنواهي، وقبل الدخول في التكاليف والشرائع والأحكام. ولذلك كان القرآن كله حديثا عن التوحيد وبيان حقيقته، وبيان حال الموحدين، وبيان سوء حال المشركين. Donc, le tawhid est le pilier de la religion, la quintessence de la croyance et le début de la religion et sa fin, ainsi que son aspect apparent et caché. Sur celui-ci, les preuves ont été établies, les versets l'ont clarifié, et sur celui-ci, et c'est sur celui-ci que la religion a été bâtie. Et par sa cause que les gens se sont divisés en deux catégories, ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. Et c'est le fondement qui doit être impérativement ancré dans les cœurs, dans les âmes et enraciné dans les cœurs, avant de rentrer dans les ordres et dans les interdits. Et tout comme avant de rentrer dans les impositions, les prescriptions et les jugements religieux, c'est-à-dire l'ahkam. C'est pour cela que tout le Coran parle de tawhid, clarifie sa réalité, expose la situation des monothéistes et met en évidence et expose la mauvaise situation des polythéistes. « Wa kana diddu tawhid al-dhanb al-a'zam » الذي لا يغفر لمن مات عليه وهو الشرك بالله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. C'est pour cela que le contraire du tawhid est le plus grand des péchés, c'est-à-dire le shirk, dont il ne sera jamais pardonné à celui qui meurt sur celui-ci. Allah dit dans le Coran: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Et son contraire est la plus grande des injustices. وَكَانَ ضِدُّهُ الظُّلْمَ الْأَعْظَمُ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et son contraire est la plus grande des injustices, comme cela a été rapporté dans le Coran. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. فلن صرف عن ذلك وهو في مكة بين الكفار والمشركين بين قوة أهل الإشراك وجبروتهم. Et la vie tout entière du prophète Ali s.a.w. était l'appel au tawhid et le combat contre le shirk. D'ailleurs, il n'a pas délaissé cela alors qu'il était parmi les mécréants et les polythéistes, alors qu'ils étaient en pleine puissance et ils étaient forts. Il n'a pas délaissé l'appel au tawhid sallallahu alayhi wa sallam. وما توانى عن ذلك وما كسل عن ذلك لحظة من اللحظات صلى الله عليه وسلم ولن صرف عنه وهو في مسالك الهجرة وهو في طريقه إلى المدينة وعدوه يطلبه حثيثا. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas délaissé le fait de parler sur le tawhid, et il n'a pas fait preuve de négligence ni de fainéantise à aucun moment. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé le fait de parler sur le tawhid lorsqu'il émigra vers Médine alors que ses ennemis le poursuivaient sans arrêt. وما ترك الكلام في التوحيد وما ترك الامر بالتوحيد ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه ولا أغلق بابه بعد فتح مكة بل بقي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد معليا لرايته ولذا فإن الواجب على كل داعية، بل إن الواجب على كل طالب العلم، على طالب علم أن يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا دعوة نافعة من كل وجه إلا إذا كانت كذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé le fait de parler dans le tawhid ou sur le tawhid, ni le fait de l'ordonner sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas interrompu la parole sur le tawhid alors que sa situation était claire à Médine parmi les Ansar et ses auxiliaires, et il n'a pas fermé sa porte après la conquête de la Mecque, mais plutôt il n'a cessé d'appeler au tawhid sallallahu alayhi wa sallam tout en levant son étendard. C'est pour cela qu'il incombe à tout prêcheur, mais encore aux étudiants en sciences, de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cela, il n'y a de da'wa, et il n'y a de prêche profitable, si ce n'est que si elle est sur cela, sur le tawhid. Allah dit dans le Coran, dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Et gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. ينبغي لطالب العلم أن يعرف للتوحيد مقاما وأن ينزله في مكانه الذي علمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو الناس للاهتمام بالتوحيد وأن يحببهم في ذلك وأن يرغبهم في ذلك. فالمنصور المبارك هو من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف للتوحيد أثره ومكانه وعرف للشرك خطره ومكانه. Il incombe donc à l'étudiant en science de connaître le rang du tawhid et de le placer à sa juste valeur et à la place dont il a pris connaissance à travers la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il appelle les gens à accorder de l'importance au tawhid et qu'il le fait aimer cela. Wa fal mansuru al mubarak, donc le secouru béni et celui qui a été béni, donc c'est celui qui chemine sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et connaît l'impact et la place et le rang, la valeur du tawhid, et qu'il connaît aussi là le danger du shirk et sa gravité et sa place. Wal makhdhul kull al khudlan man hada 'an al tariq wa hawana min sha'n al tawhid wa lam ya'rif lit tawhid makana bal hawana fahmahu wa talabahu 'ala al nas وصرفهم إلى غيره من أمور لا تنفعهم إلا إذا كانت مع توحيد ظاهر. ولذا فإنه ينبغي علينا أن نهتم بدراسة التوحيد دراسة ظاهرة بينة، وأن نهتم بفهم ذلك. Ensuite le cheikh dit: et quant à celui qui a été abandonné, c'est celui qui a dévié de ce chemin, qui a manqué de considération concernant le tawhid et ne connaît pas son rang, et a manqué de considération concernant sa compréhension, et il a certes détourné les gens vers des choses qui ne leur sont point profitables, sauf si ceci est accompagné d'un tawhid clair. C'est pour cela qu'il nous incombe d'accorder de l'importance à l'étude du tawhid de manière claire et explicite, ainsi qu'à sa compréhension. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية. ثم نبدأ يا إخوان ونقول: ما هي فضائل التوحيد؟ ولماذا ندرس هذا التوحيد؟ أولا ندرس هذا التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجله، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc Quels sont les mérites du tawhid et pourquoi étudions-nous le tawhid? Et pourquoi accorder de l'importance au tawhid? Premièrement, car Allah Azzawajal nous a créés pour cela. Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ثانياً لأن الله لا يقبل أي عمل إلا به إلا إذا كان على التوحيد. وقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. Vous pouvez avancer, Yahou, un peu, s'il vous plaît. من فضلكم جزاكم الله خيرا. لغان سبحان الله. Tiens pas. Ah, pas besoin, j'ai le monde. Il tient pas. Comme ça. Là, ben, c'est le dernier. كما قلت ثانيا لا يقبل الله أي عمل إلا بالتوحيد. فقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. Donc la deuxième chose c'est qu'Allah accepte aucun acte si ce n'est s'il est sur le tawhid. Et il a été rapporté donc un hadith Qudsi dans lequel Allah Azzawajal dit « Je suis celui qui me passe le plus des associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'a associé, je le délaisse, lui et son association. »« Thalithan la yadkhulu al-jannata illa man ata bihada al-tawhid. »« Wa la yadkhulu al-jannata illa muwahhid. » قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Et ne rentrera au paradis qu'un monothéiste, qu'une personne qui vient avec le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, Allah a certains interdit au feu de l'enfer, celui qui dit la ilaha illallah et veut par cela le visage d'Allah. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rencontre Allah azawajal, en ne lui donnant aucun associé, il rentrera au paradis. Et celui qui rencontrera Allah azawajal, en lui donnant des associés, rentrera en enfer. ثم التوحيد سبب لتكفير السيئات. فجاء في الحديث الذي يرويه الترمذي عن وحسنه عن أنس رضي الله عنه يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة. Ensuite, je pense, c'est la quatrième. Donc le tawhid, c'est une cause pour dissiper les mauvaises actions et les péchés. Il a certes été rapporté dans un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi selon Anas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Donc Allah a dit au fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés qui empliraient la terre, et ensuite que tu me rencontrais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. وكذلك هو التوحيد سبب للهداية وسبب للأمن كما جاء في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et donc le tawhid est aussi une cause pour obtenir la sécurité et la guider. Allah dit dans le Coran, et ceux qui ont cru et n'ont pas entaché leur foi d'une injustice, c'est-à-dire du polythéisme, comme l'ont dit les mufassiroun. C'est-à-dire qu'il n'a pas entaché sa foi avec le polythéisme. Ceux-là ont la sécurité, et ceux-là sont les bien guidés. وهو سبب كذلك لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس يوم القيامة أو أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال في رواية وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله أكبر. Donc c'est aussi, donc le tawhid, c'est aussi une cause pour obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus en droit d'obtenir mon intercession le jour de la résurrection, c'est ceux qui ont dit la ilaha illallah avec un cœur sincère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque messager a fait une invocation qui a été exaucée. Et moi, j'ai gardé mon invocation pour l'intercession de ma communauté le jour de la résurrection. Et dans une version, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, elle ne l'obtiendra, il n'y a eu cette intercession que celui qui est mort de ma communauté et n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala.